moi je faisais un petit peu ce parallèle qu'on pouvait avoir à l'époque avec Queen. Je vous propose qu'on écoute Mick, Beautiful Freaks. Avec le titre Beautiful Freaks.
Le pire.
Reste à venir.
Bon, allez, debout là-dedans.
De 8h à 9h sur Principe Actif et HDR.
Allez, debout là-dedans, allez.
Nous sommes toujours dans le pire reste à venir, et ça vous avez bien fait de rester à l'écoute. Nous sommes toujours avec Elisabeth Justienne Sceaux, activiste peut-être pas, allez, on va dire bénévole sur LGBT Cœur et membre coordinateur de LGBT Cœur. Pour toi, c'est bien ça, membre coordinateur LGBT Cœur, c'est bien hein?
Ouais, là c'est un peu ça là, ouais.
Ouais, non, c'est bien.
Ça
prépare la Pride de Vernon qui se déroulera ce samedi 13 juin. Point de rendez-vous, c'est où?
C'est on l'esplanade veut y partir... Jean-Claude Asf, c'est en bord de Seine, donc c'est grave chouette.
Ben, carrément, hein. Vous avez prévu le beau temps, moi?
Eh ben, apparemment, il sera avec nous.
Oh, trop bien. Ça y est, j'ai perdu le fil. Voilà, et tout le monde est invité, en fait, tout simplement.
Tout le monde est invité, vraiment, faut pas hésiter. Il y aura plein de choses. Il y aura aussi de la restauration sur place pour le moins cher qu'on pouvait faire avec crêpes, galettes et frites, saucisses, végé, vegan. Voilà, il y aura un petit bar à paillettes aussi pour être dans
la façon
le côté
dont elle
festif.
Le dit. J'ai entendu cette tonalité. Il y a tout, c'est tout sauf festif, la tonalité.
Oui,
hein,
bah,
il y aura un bar à paillettes.
Voilà. C'est là où être queer et autiste, tu vois, ça se confronte des fois, tu vois. C'est-à-dire que voilà, c'est non mais j'ai donné de ma personne cette année.
Ah non mais
je me suis fait pailleter en faisant des pancartes le week-end dernier. Je l'ai mal vécu.
Je la connais pas tant, mais ce que je sais, c'est qu'elle n'aime pas les paillettes. Ouais, non, bah, j'ai vu ça la semaine dernière. Apparemment, c'est non, faut vraiment pas le faire.
Les paillettes, c'est non.
Sur les autres.
Sur voilà, les autres.
Sur les autres, c'est très bien, c'est très beau. Voilà, il y aura une buvette aussi, donc qu'on a essayé de rendre sympathique. Il y aura la boutique d'LGBT Cœur pour prendre la plupart des trucs. à part des petits drapeaux, l'entièreté des choses sont faites par des membres du collectif. Et en fait, ça te permet de venir soutenir et éventuellement d'être un peu plus en autogestion. Parce qu'il y a quand même un monde où l'année prochaine, on vit dans la France de Bardella. Et nous, en tant que queer, ça nous inquiète. Donc, et on n'a pas envie d'attendre ça. Enfin, désolé un peu peut-être de plomber l'ambiance pour les auditeurs.
Ouais, ça tue l'ambiance quand même. Hein, parce que même quand t'es pas queer, je t'assure que ça tue l'ambiance.
On est franc. Ça reste une inquiétude parce que effectivement, tu vois, on voit des passages piétons qui ont été repeints, on voit des spectacles annulés, tu vois, sur des collectivités.
Déjà RN,
tout à fait. Donc, on a envie aussi d'aller vers l'autonomisation et donc venir sur la Pride de Vernon, prendre son petit verre, prendre un petit bracelet pour soutenir, faire un don libre au bar à paillettes. Et ben en fait, c'est nous soutenir et c'est nous permettre d'aller faire cette autonomie là, parce qu'on n'a pas beaucoup de subventions, on a un petit peu, mais au cas où on puisse un jour plus compter dessus, on a envie de pouvoir continuer à faire des choses et à toujours être ressource pour nous-mêmes et les autres queers du département de l'Eure, y compris ceux qui ne se connaissent pas encore, et les plus jeunes. Je pense aux plus jeunes.
On arrive sur la toute dernière ligne droite de l'émission. Je me retourne vers Elisabeth Justienne. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'aurait pas dit, des choses essentielles, des messages positifs ou pas d'ailleurs à renvoyer vers nos auditeurs, quelque chose que vous souhaiteriez je vérifie qu'on a vidé le sac en fait, hein, tout simplement. Vous ne disiez pas en ressortant, j'y sais, on n'a pas dit ça aussi, hein. Je n'ai pas de reproche. Hein.
Non, je pense qu'avec qui en plus qui est très très investie dans la Pride cette année, elle a fait quand même vachement le tour à rappeler toujours qu'une Pride c'est un moment de fête où on est fier de montrer nos couleurs, clairement chacun peut montrer qui il est, mais que c'est aussi un moment où on doit se battre pour nos droits. Et c'est toujours important de le rappeler, que ce soit les droits LGBT, les droits des femmes, les droits des personnes immigrées, peu importe.
C'est important. Les droits de manière générale, en fait. Quand on parle d'intersectionnalité, c'est ça, les droits de manière générale.
Et sur ça, là, c'est ce que Sceaux et tout le collectif ont fait sur cette Pride-là. Ça sera une fête, mais il y aura plein d'interventions, plein de monde pour montrer qu'on se bat pour nous.
Et on veut occuper l'espace public parce que c'est ça aussi une Pride avec une marche des fiertés en centre-ville, on fera un passage devant la mairie, on occupe l'espace public, on montre qu'on est visible, voilà, donc ça c'est important de pas se cacher et parce que ça sera une safe place, voilà. Et puis je tenais à remercier aussi les bénévoles un peu durs du collectif, Gisèle, Alex qui était là depuis le début, Laura Louise, Léa, voilà, c'est Amandine terrible,
quand,
aussi.
J'allais dire, quand on en nomme, on en oublie, et ça, c'est terrible.
On en oublie, effectivement, mais voilà, c'est derrière, il y a des personnes qui ont des métiers, qui ont des difficultés, qui ont des fragilités, qui prennent le temps de se mobiliser, qui font du mieux qu'elles peuvent avec ce qu'elles ont. Et donc, n'hésitez pas à venir nous rencontrer, venir passer un bon moment, apprendre des choses, soutenir, et puis revendiquer d'une façon peut-être un peu différente, et sur notre joli territoire aussi, où tout le monde en fait peut vivre sa vie. Et c'est ça qu'on vient défendre ce week-end. Donc voilà, c'est 14h-23h sur l'esplanade Jean-Claude Asf à Vernon. Le programme est dispo sur les réseaux sociaux. J'en ai pas parlé, mais il y a aussi une cagnotte en ligne pour nous soutenir, pour ceux qui pourraient pas. Et donc, merci JC.
Dans les réseaux sociaux, on cherche quoi? LGBT Cœur?
Ouais, LGBT Cœur, Insta, Facebook, voilà.
Et puis on trouve toutes les infos. Ouais, exactement, la safe place, c'est à Vernon. Ce samedi 13 juin, et puis vous y êtes invité en fait, tout simplement, hein. On peut pas dire mieux, hein. Il n'y a pas plus invitant en fait, hein, c'est ça l'idée, quoi. Et puis ça s'adresse à toutes et à tous, c'est aussi familial ce moment. Je crois qu'on a fait le tour.
Super.
On va en rester là. Merci beaucoup à vous d'être passé par nos micros. On n'a plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Restez à l'écoute de nos programmes parce qu'ils sont cool.
Merci d'écouter RFI, les midis à Paris, 10h temps universel. Le journal Charlotte de Rouen. Bonjour Charlotte.
Bonjour Chantal, bonjour à tous. C'est le rendez-vous des amoureux du ballon rond. La Coupe du monde de football débute ce jeudi au Mexique. Focus dans ce journal sur l'équipe australienne. Après les frappes américaines en Iran, le cessez-le-feu est pratiquement dénué de sens. Selon la diplomatie iranienne, la Turquie et la Russie appellent à un retour au dialogue. Aux Philippines, les secours tentent toujours de retrouver les disparus. Après le séisme de lundi, les dégâts sont importants. Des milliers d'enfants ne pourront pas retourner à l'école. Et puis en France, le chanteur Patrick Bruel remis en liberté sous contrôle judiciaire. Le procureur demandait son placement en détention provisoire pour viol et agression sexuelle notamment. Le coup d'envoi donc ce jeudi de la Coupe du Monde de football, une compétition à 48 équipes sur 3 pays, États-Unis, Canada et Mexique, où se déroulera la cérémonie puis le match d'ouverture entre le Mexique et l'Afrique du Sud. Et pour ce mondial, l'équipe australienne a fait le pari de la jeunesse. 17 des joueurs sur les 26 que compte la délégation n'ont jamais participé à une Coupe du Monde. Une audace plutôt bien perçue par les supporters, c'est ce qu'ils ont confié à notre correspondant à Sydney, Grégory.
Ces jours d'entraînement sur la pelouse de l'université de Nouvelle-Galles du Sud, mais sur le terrain, ce sont des matchs qui vont se jouer à plus de 10 000 km de Sydney qui accaparent toutes les pensées. C'est le cas par exemple de Hadi, pour qui cette équipe australienne, largement renouvelée, c'est une très bonne idée.
C'est un nouveau départ, on a plein de nouveaux joueurs comme Iran Kunda et d'autres qui jouent dans le championnat anglais. Ça fait beaucoup de talent, ils sont tous jeunes et ça promet un avenir radieux.
Les Socceroos débutent la compétition dans un groupe compliqué où se trouvent aussi les États-Unis, la Turquie et le Paraguay. Mais Michael, qui entraîne une équipe féminine à Sydney, veut croire que l'Australie parviendra à se qualifier.
La phase de groupe va être très difficile, mais ces dernières années, plutôt que de jouer chaque match à fond, on s'est concentré sur les matchs les plus importants et sur ceux où il y avait des points à prendre. Et je pense que contre une équipe comme la Turquie, qui n'a pas joué en Coupe du Monde depuis très longtemps, on pourrait prendre des points en s'appuyant sur notre expérience de la compétition.
La Turquie, c'est justement la première équipe qui affrontera l'Australie à la Coupe du Monde le 14 juin prochain à Vancouver. L'occasion de voir si, comme l'affirme le sélectionneur Tony Popovic, ces jeunes Socceroos sont bel et bien prêts. Grégory Pless, Sydney, RFI.
Et en attendant ce soir, coup d'envoi avec l'affiche entre le Mexique et l'Afrique du Sud. Coup d'envoi 19h, temps universel, ce sera à suivre sur les antennes africaines de RFI. Au Moyen-Orient, 2 mois après l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu, la trêve semble plus que jamais fragilisée. L'Iran annonce ce matin la fermeture totale du détroit d'Ormuz. Les États-Unis, qui ont bombardé la nuit dernière de nouvelles cibles en Iran, et Téhéran a riposté en visant des cibles militaires américaines en Jordanie, au Koweït et à Bahreïn. La Turquie exhorte les deux parties à cesser leurs attaques. La Russie appelle Téhéran et Washington à revenir à la table des négociations. L'Inde, de son côté, confirme la mort de 3 marins. Ils étaient portés disparus depuis hier lorsqu'une frappe américaine a touché leur navire proche des côtes omanaises. Manoj Yadav est le secrétaire général du syndicat des marins indiens.
Il s'agissait d'un navire commercial, il ne représentait absolument aucune menace. Personne à bord n'avait de munitions ni quoi que ce soit qui puisse menacer les forces militaires. Ce navire n'était visé par aucune sanction. Les Américains auraient pu monter à bord et simplement procéder aux vérifications d'usage. Mais malgré cela, ils ont tiré un missile visant à la fois les marins et le navire. Nous condamnons fermement cette attaque et nous demandons à toute la communauté internationale, y compris les Nations Unies, l'Organisation Maritime Internationale, ainsi qu'au Premier ministre indien, d'intervenir immédiatement. Les 20 000 marins indiens qui se trouvent actuellement dans cette zone de conflit subissent aujourd'hui une énorme pression psychologique et ils font face à une menace très sérieuse après ces incidents.
Des propos recueillis par Nicolas Feldman. Taïwan rapporte l'intrusion de navires chinois dans les eaux de l'île de Taiping, une île disputée en mer de Chine méridionale. Les deux navires chinois y sont restés 15 minutes avant que les gardes-côtes taïwanais ne les expulsent. Mais cet incident survient après que la Chine a mené une opération maritime dans les eaux situées à l'est de Taïwan. Aux Philippines, le bilan s'est encore alourdi. 46 morts et 630 blessés après le séisme qui a frappé lundi l'île de Mindanao. Les secours tentent toujours de retrouver les disparus. Des dizaines de milliers de personnes sont hébergées dans des centres d'accueil d'urgence et les enfants ne pourront pas reprendre tout de suite le chemin de l'école. Mélissa Barra s'est entretenue avec les équipes de Save the Children sur place.
4000 écoles ont été endommagées, un quart d'entre elles totalement détruites à Mindanao. Cette île grande comme la Corée du Sud, touchée lundi par l'un des séismes les plus violents enregistrés aux Philippines ces dernières décennies, alors que les élèves faisaient leur rentrée des classes. Ils sont 4 millions à être privés d'école. Faiza Ali est coordinatrice humanitaire de l'ONG Save the Children à Mindanao.
C'est dur pour ces enfants. Ils ont été témoins des destructions de leur école. Certains sont soignés dans des hôpitaux, ils sont traumatisés. Et même si l'alerte a été levée, ils craignent encore un tsunami dans les zones côtières.
Le gouvernement a recensé plus de 32 000 déplacés, répartis dans une cinquantaine de centres d'hébergement d'urgence, tous saturés.
Habituellement, nous utilisons des écoles pour accueillir les personnes évacuées. Mais nous ne pouvons pas toutes les utiliser, car il faut d'abord évaluer si les structures des bâtiments présentent un danger. 5 à 10 familles peuvent se retrouver entassés dans une salle de classe, d'autres dans des tentes et abris de fortune exposés aux intempéries. La pluie est battante et l'indice de chaleur est très élevé.
Save the Children estime qu'il peut se passer entre 3 et 6 mois avant que les enfants puissent reprendre le chemin de l'école.
Mélissa Barra, deux Chinois issus de la minorité Ouïghour, condamnés à mort en Thaïlande, reconnus coupables d'un attentat qui a tué 20 personnes en 2015 sur un site religieux à Bangkok. Les deux hommes ont été donc condamnés pour avoir placé des explosifs dans le sanctuaire hindou d'Erawan, situé au cœur du quartier commercial de la capitale thaïlandaise. En Europe, cette nouvelle nuit de manifestation à Belfast, en Irlande du Nord, la ville théâtre de violences pour la deuxième nuit consécutive, des violences anti-immigrés après une attaque au couteau pour laquelle un réfugié soudanais a été inculpé. La police a utilisé un canon à eau pour disperser les protestataires. RFI midi et 7 minutes à Paris, en France, le chanteur et comédien Patrick Bruel, remis en liberté sous contrôle judiciaire. L'artiste a été mis en examen à l'issue de sa garde à vue hier dans plusieurs affaires de violences sexuelles. Marius Lafont, contrairement aux réquisitions du procureur, le juge des libertés et de la détention n'a pas décidé de le placer en détention provisoire.
Après 48 heures de garde à vue, Patrick Bruel, 67 ans, a donc été remis en liberté, mais sous contrôle judiciaire, décision des juges d'instruction, une mesure préventive le temps de l'enquête. Les magistrats l'ont entendu longuement hier soir au sujet de 9 plaintes. Patrick Bruel est mis en examen dans 4 affaires, parmi elles un viol en 2008 à Neuilly-sur-Seine, en banlieue parisienne. Dans 4 autres, il a été placé sous le statut plus favorable de témoin assisté. Une dernière plainte pour viol à Grenoble en 2000 concernait des faits prescrits. Patrick Bruel est désormais inculpé de viol, tentative de viol, agression sexuelle et harcèlement sexuel. Son contrôle judiciaire comporte des interdictions, notamment celle d'entrer en contact avec les victimes et leurs familles ou de quitter le territoire français. Accusé d'agression au cours d'un massage, il a aussi l'interdiction de fréquenter des salons. Mais le contrôle judiciaire n'est pas une condamnation. Patrick Bruel conteste les accusations et reste présumé innocent. Il participera naturellement à tous les actes de l'enquête, a fait savoir l'une de ses avocates.
Marius Lafont, le pape Léon XIV est aux Canaries aujourd'hui suite de la visite du souverain pontife en Espagne. Sur cet archipel espagnol au large des côtes africaines, il interpelle le monde sur le sort des migrants. Le pape qui réalise ainsi le souhait de son prédécesseur François, le pape argentin mort il y a un an sans avoir pu effectuer ce voyage dans l'archipel. Le navigateur français Charlie Dalin est décédé, vainqueur du dernier Vendée Globe. Il s'est éteint à l'âge de 42 ans des suites d'un cancer. Il se luttait depuis un peu plus de 2 ans et demi contre la maladie. On retrouve à présent Lucie Bouteloup pour 8 milliards de voisins.
Bonjour Charlotte Dorin, aujourd'hui on va parler du numérique. Quel impact sur nos relations ?
When I'm lonely, your press play. When I'm lonely, I press play. Can I get any closer? Whatever little can I bring to you? When I'm lonely, I press play. 'Cause you're not resolved in your heart. You're waiting for me to improve. Right here, when I'm lonely, I press play. Ah, rip me up, accepting that you live with uncertainty. If you're lonely, press play. Can I get any closer? What antidote can I bring to you? When I'm lonely, I press play. 'Cause you're not resolved in your heart. You're waiting for me.
C'est quand même incroyable qu'aujourd'hui tout le monde écoute la radio et combien de gens savent finalement que ce droit et ce choix qu'ils ont, il est né de luttes de gens militants qui à un moment donné ont été à l'encontre du droit pour acquérir plus de droits.
Vous écoutez Principe Actif.
Vous écoutez Principe Actif à Évreux 102.4. Dans le sud de l'Eure, 95.9. Principe Actif, le mix des cultures.
Can you please make up your mind, yeah? 'Cause we're running out of time.